de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Chers amis, nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, les commentaires et d'autres infos comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Mon cher auditeur, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici le journal. Nous commençons avec les titres. L'ambassade indonésie a organisé FGD sur la question d'empêcher les pêcheurs indonésiens d'entrer dans les eaux malaises. La Corée du Sud parrainait le brouillon de résolution de l'UNHCR sur la violation des droits de l'homme en Corée du Nord. Le gouvernement encourage la réalisation des 100 jeux de jeunes professionnels avec la Suisse. Les ministres des Affaires étrangères japonais et sud-coréens conviennent de travailler ensemble pour faire face aux menaces nord-coréennes. L'UNHCR rappelle aux réfugiés rohingyas à Aceh de ne pas s'enfuir. Le ministre de l'Investissement soutient le développement d'usines au concept vert. Le partenariat Indonésie-Suède est une histoire de réussite lors des journées suédoises de l'innovation. Voici le journal complet. L'ambassade indonésie à Kuala Lumpur a organisé une discussion de groupe concentré au FGD pour discuter des stratégies visant à empêcher les pêcheurs indonésiens d'entrer dans les eaux malaises. Dans sa déclaration, citée par Antara, jeudi, l'attaché de transport de l'ambassade indonésie à Kuala Lumpur, Supendi, a déclaré qu'au cours de l'année 2022, au moins 122 membres d'équipage ABK ou pêcheurs traditionnels de deux navires de pêche et bateaux de pêche ont été arrêtés par la Malaisie pour des violations présumées de la loi sur la pêche de 1985 et de la loi sur la migration de 1963. Le FGD a réuni des représentants du ministère des Affaires maritimes et de la pêche, du ministère des Transports, l'Agence de sécurité maritime de la République d'Indonésie, du gouvernement provincial de Sumatra du Nord et du gouvernement provincial des îles Riau. La discussion a également été suivie par des représentants indonésiens à Kuala Lumpur, Johor Bahru, Penang, Kota Kinabalu, Kuching et Tawau. La Corée du Sud a parrainé un brouillon de résolution de l'ONU sur les violations des droits de l'homme en Corée du Nord pour la première fois en 5 ans. C'est ce qu'a déclaré jeudi une source diplomatique citée par l'agence de presse Yonhap. Selon la source, le brouillon de résolution sera adopté lors de la 52e session ordinaire du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, UNHCR, qui se tient du 27 février au 4 avril. Le projet de résolution mené par la Suède et l'Union européenne exhorte la Corée du Nord à garantir la liberté d'expression, à la fois en ligne et hors ligne, et à permettre la création des médias indépendants. Ce brouillon exhorte également la Corée du Nord à reconsidérer sa loi sur le blocage des contenus culturels provenant de l'extérieur de cette nation fermée. Le gouvernement indonésien, par l'intermédiaire du ministère de la Main-d'œuvre, encourage un programme d'échange de jeunes professionnels entre l'Indonésie et la Suisse par le biais du programme des travailleurs indépendants, TKM, qui sera réalisé immédiatement. Cela a été révélé lors d'une réunion bilatérale avec le secrétaire général du ministère de la Main-d'œuvre, Anwar Sanusi, et la responsable des affaires internationales du travail, Seiko Valérie Berset-Bircher, à Genève. Tous deux ont également discuté des préparatifs du groupe de travail conjoint JWG3 qui se tiendra en Suisse en juin pour coïncider avec la réunion de la Conférence internationale du travail CIT. La dernière question à discuter dans le JWG3 concerne la formation, en particulier le benchmarking des institutions de formation professionnelle en Suisse. Le ministre japonais des Affaires étrangères, Yoshimasa Hayashi, et le ministre sud-coréen d'unification, Kwon Yung-soo, ont convenu jeudi de travailler plus étroitement pour contrer les missiles et les menaces nucléaires de la Corée du Nord. C'était selon un communiqué du gouvernement japonais cité par l'agence de presse Kyodo. Lors de pourparlers à Tokyo, Hayashi et Kwon ont partagé le point de vue selon lequel la série d'essais de missiles de la Corée du Nord est une menace sérieuse pour la sécurité régionale qui pourrait survenir à tout moment. Kwon doit rester au Japon jusqu'à samedi. Les relations entre Tokyo et Séoul se sont améliorées depuis que la Corée du Sud a annoncé plus tôt ce mois-ci une solution aux différends entre les deux pays sur le travail forcé en temps de guerre. Le représentant indonésien du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, UNHCR, a rappelé aux réfugiés rohingyas à Aceh de ne pas s'enfuir et de ne pas poursuivre leur voyage illégalement afin d'éviter un éventuel trafic d'êtres humains. L'assistant principal en communication de l'UNHCR en Indonésie, Muhammad Yanuar Farhanditya à Banda Aceh, a déclaré jeudi que sa partie se coordonnera toujours avec les autorités locales pour améliorer la sécurité dans les abris des réfugiés rohingyas afin d'empêcher qu'ils ne s'échappent pas. Yanuar répondait à 12 réfugiés de l'ethnie rohingya qui avaient fui l'unité technique de mise en œuvre de services UPTD du service social d'Aceh à Ladon il y a quelque temps. Cependant, ils ont été arrêtés par les forces de sécurité lorsqu'ils s'apprêtaient à partir pour Medan, au nord de Sumatra. Le ministère de l'Investissement, Conseil de coordination des investissements, BKPM, soutient le développement d'usines écologiques dans le cadre d'un effort visant à réduire les émissions de carbone. Ce soutien a été transmis par la joint à la promotion des investissements au ministère de l'Investissement, BKPM, Nurul Ihwan, en réponse à la construction de nouvelles usines pour l'un des fabricants de peinture de la région de Cikande, la résidence de Serang, Banten. L'usine applique le concept d'usine verte, réduisant ainsi les émissions de carbone jusqu'à 7%. Dans sa déclaration écrite, citée par Antara, il espérait jeudi que cette innovation pourrait devenir un exemple pour d'autres entreprises dans leurs efforts pour atteindre zéro émission de carbone en Indonésie en 2060. L'activité annuelle de la semaine du partenariat Suède-Indonésie pour la durabilité SISP a été désignée comme une forme de coopération réussie dans le domaine de la durabilité lors des journées suédoises de l'innovation qui se sont déroulées du 21 au 23 mars 2023. L'ambassadeur d'Indonésie au Royaume de Suède, Kama Pradipta Isnomo, a souligné l'importance de l'activité du SISP comme une opportunité de renforcer la coopération entre les deux pays dans de certains plans d'innovation tels que le transport, les énergies renouvelables et la santé. Kama Pradipta, dans une déclaration écrite de l'ambassade d'Indonésie à Stockholm, a déclaré jeudi que le partenariat avec la Suède est très important pour l'Indonésie, car les progrès de l'innovation et de l'excellence technologique peuvent être une référence et une inspiration pour les hommes d'affaires et les parties prenantes en Indonésie. Les journées suédoises d'innovation se déroulent de manière hybride à travers des sessions de discussion physique et sont diffusés depuis le bureau de business Sweden à Stockholm. Cette année, l'événement a réuni plus de 5000 participants impliquant plus de 90 pays, de 150 conférenciers et 100 sessions de discussion. Ces auditeurs, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour l'émission de commentaires d'aujourd'hui, intitulée « Israël révoque la loi sur le désengagement de 2005 ». Vous êtes avec moi, Audrey. Chers auditeurs, Israël a publié une politique controversée quelques jours seulement avant le mois de Ramadan. Le Parlement israélien, Knesset, a révoqué la loi de désengagement de 2005 concernant les colonies israéliennes en Cisjordanie. La loi sur le désengagement de 2005 a ordonné la démolition des 4 colonies juives en Cisjordanie occupées lors qu'Israël a retiré ses troupes de la bande de Gaza, à savoir Sha'anour, Ghanim, Kadim et Homesh. En 2005, le gouvernement israélien a rendu une décision choquante ordonnant la démolition des colonies juives en Cisjordanie ainsi que le retrait des troupes israéliennes de Gaza. Le premier ministre israélien de l'époque, Ariel Sharon, a fait valoir qu'Israël ne serait pas en mesure de maintenir les colonies associées dans le cadre d'un futur accord avec les Palestiniens. Selon Sharon, la démolition des 4 colonies contribuera à fournir une proximité territoriale palestinienne en Cisjordanie et facilitera la vie normale des Palestiniens. Depuis l'entrée en vigueur de la loi, les citoyens israéliens n'ont pas le droit de rentrer dans ces zones résidentielles sans autorisation militaire. Cependant, lundi dernier, 20 mars 2023, le Parlement israélien a voté la révocation d'une partie de la loi sur le désengagement lors d'un vote. Sur les 120 membres de la Knesset, 31 d'entre eux soutiennent l'abrogation de la loi de 2005, alors que 18 autres ont voté contre. Ensuite, les membres restants ont voté pour s'abstenir. L'abrogation de la loi ouvrirait la voie au retour des colons juifs dans des zones de Cisjordanie qui étaient auparavant illégales pour devenir légales. Cela va certainement aggraver le conflit entre les colons et les Palestiniens et augmenter le risque d'escalade de la violence des deux côtés. Les actions d'Israël ont été critiquées par divers partis, même par son allié le plus proche, les États-Unis. Le gouvernement des États-Unis, par l'intermédiaire d'un porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Vedant Patel, a déclaré que l'abrogation de la loi sur le désengagement par le Knesset violer l'engagement d'Israël envers les États-Unis concernant l'expansion des colonies en Cisjordanie. Selon lui, les modifications législatives annoncées par Israël étaient très provocatrices et contre-productives pour les efforts visant à rétablir le calme à l'entrée du Ramadan pour les musulmans et de Pâques pour les chrétiens résidant en Cisjordanie. Espérons que la proximité des États-Unis avec Israël pourra influencer les décisions qui ont été prises pour que les musulmans qui jeûnent pendant le Ramadan et les chrétiens qui fêteront Pâques puissent le vivre solennellement, en toute sécurité et confortablement. Bon, cher Joïtar, c'est tout. Le commentaire.
Bonjour, bonsoir à tous. Merci d'écouter La Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Le 24 mars 1976, la guerre sale en Argentine. La guerre sale a eu lieu en Argentine dans la période de 1976 jusqu'à 1983. Le 24 mars 1976, la présidente argentine Isabel Perón a été kidnappée et renvoyée lors d'un coup d'État sans effusion de sang. La guerre sale est un terme qui est attaché parce que l'État gère un programme de terrorisme pour faire face à la subversion de gauche qui est considérée comme dangereuse pour le gouvernement. La guerre sale est développée pour justifier les régimes autoritaires massacrants les dissidents. Le massacre a été perpétré par le gouvernement militaire de José Rafael Videla. Le 24 mars 1989, le pétrolier Exxon Valdez s'écrase sur un récif, provoquant une catastrophe environnementale. Le 24 mars 1989, le pétrolier Exxon Valdez a heurté récif de Bleak dans la région de Prince William Sound en Alaska, ce qui a déversé plus de 11 millions de gallons de pétrole dans Prince William Sound, dans le golfe de l'Alaska, aux États-Unis. L'incident était l'une des plus grandes catastrophes en mer. Le pétrolier était chargé d'environ 54 millions de gallons de pétrole. Donc, 10,8 millions de gallons ont été rejetés dans les eaux de Prince William Sound lorsque sa coque a été déchirée lors de l'accident. Le 24 mars, la journée mondiale de la tuberculose. Chaque année, la communauté internationale commémore la journée mondiale de la tuberculose le 24 mars. Cette commémoration vise à accroître la sensibilisation du public aux conséquences sanitaires sociale et économique dévastée par la tuberculose et d'intensifier les efforts pour mettre fin à la pandémie mondiale de tuberculose. La date marque le jour de 1882 où le docteur Robert Koch a annoncé qu'il avait découvert la bactérie qui cause la tuberculose, ce qui a ouvert la voie au diagnostic et à la guérison de cette maladie. Le thème général de la Journée mondiale de la tuberculose de cette année est « Oui, nous pouvons mettre fin à la tuberculose ». Et le thème choisi par l'Indonésie est un thème lié à la coopération multipartite pour prévenir et parvenir à l'élimination de la tuberculose. À savoir, mettons fin à la tuberculose ensemble, l'Indonésie le peut. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
Aku harap tak
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était belle la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute.
16e longtemps, voici donc Mon Indonésie ayant pour le titre La valeur des ressources naturelles est la nouvelle source de croissance économique de l'Indonésie. Le vice-ministre des Finances, Suhasil Nazara, a déclaré que les activités d'aval des ressources naturelles sont une nouvelle source de croissance économique pour l'Indonésie. Cité par l'agence de presse Antara lors du forum des entreprises OCBC-NISP à Jakarta, le vice-ministre Suhasil a déclaré que le gouvernement avait interdit l'exploitation des ressources naturelles pour effectuer l'aval au niveau national tout en les transformant davantage. Il a fait remarquer que le gouvernement est en train de construire des industries nationales afin que la croissance économique soit plus forte. Il a estimé que l'aval des ressources naturelles créera de la valeur ajoutée pour l'économie grâce aux exportations de produits transformés avec des valeurs plus élevées et plus d'emplois. Il a également souligné que pendant que l'aval est en cours, le gouvernement continue d'utiliser des produits locaux. C'est aussi une nouvelle source de croissance économique pour l'Indonésie à l'avenir. Le gouvernement continue également d'encourager les besoins des ministères et des institutions qui utilisent le budget de l'État, APBN, à être satisfaits par des produits nationaux, en particulier ceux produits par les micro, petites et moyennes entreprises, MPME. En outre, la transition vers une économie verte deviendra également une nouvelle source de croissance économique pour l'Indonésie. Il a ajouté que les besoins énergétiques de l'Indonésie avec une population et une économie croissante entraîneront une plus grande demande d'énergie. Ainsi, l'énergie verte devient une nouvelle source de croissance économique pour le pays. Il a également demandé aux acteurs commerciaux et aux secteurs des services financiers de maintenir la stabilité et la croissance économique dans un contexte d'incertitude économique mondiale. Avec divers indicateurs économiques toujours positifs, le vice-ministre Suhasil estime que la croissance économique de l'Indonésie sera d'environ 5,0 à 5,3% en 2023. C'est Zorita, c'était Mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie, la diffusion en français.
Manisnya senyumanmu membekas dalam kalbu. Kini ku rasa ku telah jatuh cinta pada sosok malaikat yang tiada bersayang. Itu kamu di dalam hatiku. Kamu bidadari surgaku. Oh, maukah kamu menjadi pendamping dalam hidupku yang akan selalu temani hidupku ini, dan kan ku berikan semua taman surga. Jatuh cinta pada sosok malaikat yang tiada bersayang itu.
kamu di dalam hatiku.
Chers auditeurs, c'était la 12e chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Chers amis, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voines.id. Chers auditeurs, maintenant nous allons présenter les magazines culturels. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour l'émission de magazine culturel. Cette fois, je vais vous présenter Gato Petah de Kalimantan du Sud. Chers amis, les habitants du sud de Kalimantan ont un menu spécial pour l'iftar. Il s'appelle Gato Petah, aussi connu sous le nom de Gato Petah Asia. Ce gâteau est de couleur verte et c'est généralement servi comme menu pour rompre le jeûne et aussi comme plat pendant l'Eid il-Fitr. Les gâteaux de petah sont fabriqués à partir de farine de riz, de jus de pandan et de feuilles de suji, de merlan et de sel. Tout le mélange a été mélangé et laissé mijoter le mélange de piment jusqu'à épaississement. Après cela, le mélange est versé sur une plaque à pâtisserie enduite d'huile et cuite à la vapeur jusqu'à ce qu'elle soit cuite. Une fois cuit, le gâteau petah est coupé en fines tranchées. Chers amis, habituellement, petah est servi avec une touche de taïlala. Le taïlala est du lait de coco qui est bouilli avec du sel et du poivre jusqu'à ce qu'il atteigne une texture épaisse. Lorsqu'il est servi, le petah est arrosé de sauce taïlala, puis saupoudré de poudre de piment et d'oignons frits. Cette nourriture est parfaite pour accompagner une tasse de thé chaud. Lorsqu'il est mangé, la texture de ce gâteau typique de Kalimantan du Sud est si moelleuse et savoureuse. Outre Petah, Tailala est également généralement associé à Jaring. Jaring est le nom des habitants du sud du Kalimantan pour Jengkol. Les fruits de Jengkol sont bouillis puis servis avec du Tailala. Pendant le mois de jeûne, le gâteau Petah peut être acheté presque tous les jours au marché de Wadai ou sur les marchés qui vendent des collations et des gâteaux traditionnels à Banjarmasin et à Martapura. Si vous achetez ce gâteau pour le ramener à la maison, le gâteau Petah est généralement séparé du Tailala, de sorte qu'il ne se rassise pas rapidement. Le prix est relativement abordable, autour de 15 000 de roupies à 20 000 de roupies par portion. Bon, chers auditeurs, c'est tout, le magazine culturel.
Kau bahagia bersamaku. Bernyanyilah, ku ingin dengar suara indahmu itu. Dengar aku, mengertilah aku bahagia bersamamu. Tak mudah jujur tuk ungkapkan agar kau mengerti yang ku rasakan. Tak sulit seharusnya aku tunjukkan. That when I say I love you, I really do. Suara indahmu itu, jangan kau ragu, mengertilah ku bahagia bersamamu. Tak mudah jujur tuk ungkapkan agar kau mengerti yang ku rasakan. Tak sulit seharusnya aku tunjukkan. I really do. Cinta yang sama. Sorry, really do.
Serge Littard, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Et comment? Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour l'émission de l'Indonésie en couleur, intitulée Bayu Caraka, d'ITS, est prêt à défendre la championne dans les matchs internationaux. Vous êtes avec moi, Audrey. Chargé tard, l'équipe de robots volants ITS Bayu Caraka est prête à participer au Singapour Amazing Flying Machine Competition, SAFMC, 2023 à Singapour. Ces robots se présentent sous la forme de trois drones nommés Suro Alpha, Suro Beta et Suro Aaron, ainsi que de quatre nouvelles télécommandes. Les trois robots à base autonome seront amenés à combattre dans deux des huit catégories existantes, à savoir semi-autonome D1 et autonome D2 à Singapour du 25 mars au 1er avril 2023. Deux des trois robots transportés cette fois sont de type Swap Drone. Les deux sont interconnectés et travaillent ensemble pour accomplir la mission de déplacer la balle vers une cible prédéterminée. Ce type de drone utilise une technologie autonome qui n'implique pas de contact humain pour le déplacer. Pendant ce temps, d'autres drones sont conçus pour soulever des sacs à épingles et des trombones avec plus de difficultés que l'année précédente. L'un des membres de l'équipe, Torik, a expliqué que dans cette compétition, Bayu Caraka ITS a apporté les dernières innovations en termes de technologies qui étaient différentes d'avant. L'utilisation d'un type à distance avec un capteur de mouvement qui peut détecter les mouvements de la main qui seront ensuite transformés pour faire fonctionner des drones. De plus, il existe également un type de télécommande qui peut détecter les mouvements de la main à travers la caméra, puis les traduire pour déplacer le drone. Membre de la division mécanique, Epidonta Ginting a expliqué que les difficultés rencontrées par l'équipe pour développer ce robot se trouvaient dans le type entièrement autonome. Bon chargeur tard. C'est tout l'Indonésie en couleur.
Rasa kesyukuran doa kau selalu mengawasi gerak-gerikku. Berkatilah, ku perlu rahmat darimu. Oh Tuhan, terangkan hati dalam sanubariku untuk menempuhi segala cabaran ini. Oh Tuhan, ku berserah segalanya kepadamu agar jiwaku tenang dengan bimbinganmu selalu. Kalaku merasa hidup ini seperti kaca. Jikalau tidak bersabar, hancur berderailah akhirnya. Tabahkanlah hatiku melalui semua itu. Oh, kuatkanlah.
Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Membiarkan hatimu jatuh di pelukanku, memaksa nuraniku untuk jatuh cinta. Sudah cukup waktuku mengenalmu, aku ingin membawamu lebih jauh. Membiarkan asmara bicara sejujurnya, melabuhkan rindu di antara kita. Hatiku hilang di dasar samudra cinta. Aku temukan kembali saat kau menyinari hidupku.
jujurnya melabuhkan rindu di antara kita.
Chers amis, c'était la chanson pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Sans retard, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute. Chers auditeurs et auditeurs, bonsoir. Vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie au monde, avec Maudrey. Ce soir, dans la rubrique magazine musical, je vais vous présenter une chanson de Java Central intitulée Ngopi Mase. Chers amis, cette chanson qui est actuellement populaire sur les réseaux sociaux parle de quelqu'un qui a le sens du prestige. Alors, il se force à suivre la tendance existante en empruntant de l'argent de d'autres personnes, jusqu'à ce qu'ils finissent par s'étourdir en pensant au moyen de rembourser la dette. Mais toutes ces choses compliquées peuvent être pensées autour d'une tasse de café. Bon, chers auditeurs, voici Happy Asmara va chanter une chanson intitulée Ngopi Mase. Bonne écoute.
Umat mikir tagihan, ngopi-ngopi mase. Umat mikir cicilan, ngopi-ngopi mase.
Ngopi mase.
Kafe amargo gengsi, kaya tuku iPhone. Telu titiror pinjam, santuy ae mase. Umat mikir cicilan, ngopi-ngopi mase.
Ngopi mase, yo.
Sirah mumet pikiran dua, kole upetan soyom dua. titilan ngopi-ngopi mase, ngopi mase.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter, @voiceindonesia, d'Instagram, @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook de Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube, Voice Indonesia. Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.